Vous écoutez, on lit pour vous.
Le malaise des frais avec le café. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 21 janvier 2025 dans la presse. Une action collective contre les grandes chaînes de café, y compris Starbucks, Second Cup et Tim Hortons, se prépare. Cette poursuite conteste les frais imposés aux consommateurs qui choisissent des produits substituts au lait de vache comme les boissons à base de soya ou d'avoine. Une demande d'autorisation pour cette action collective a été déposée récemment à la Cour du Québec. Les arguments. Coûts injustifiés et discrimination. La demande repose sur deux constats majeurs. Premièrement, il est avancé que ces frais ne se justifient plus financièrement. Les résultats varient d'une étude à l'autre, mais les données recueillies par Statistique Canada démontrent que les boissons végétales, comme les boissons de soya ou d'avoine, sont souvent moins chères que le lait de vache. Par exemple, depuis 2018, la boisson de soya se vend généralement moins chère au détail au Québec que le lait 2% à volume égal, sauf pour de brèves périodes comme décembre 2022 et janvier 2023. Bien que les prix au détail ne reflètent pas nécessairement ceux payés par les chaînes à leurs fournisseurs, les boissons substituts semblent moins coûteuses sur le marché. De plus, l'écart de prix entre ces deux types de produits tend à augmenter chaque année. Une question légitime se pose alors. Pourquoi ne pas imposer des frais supplémentaires sur le lait de vache plutôt que sur les produits de substitution d'origine végétale? Est-il possible que la stratégie ait été conçue pour profiter au puissant secteur laitier en décourageant la consommation de produits de rechange? Depuis presque 30 ans, soit depuis 1997, la plupart des chaînes de café imposent des frais supplémentaires aux clients qui choisissent un substitut au lait de vache. Ces frais varient entre 50 sous et 80 sous par boisson. Selon les estimations, Starbucks Canada aurait généré plus de 337 millions de dollars de revenus supplémentaires grâce à ces frais. En combinant les revenus de toutes les chaînes, le total atteint sans doute plusieurs milliards de dollars. Le deuxième argument repose sur la discrimination potentielle envers les personnes qui sont obligées d'éviter le lait de vache. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of the Canadian Association of Gastroenterology estime que 44% de la population canadienne, soit environ 16 millions de personnes, est touchée par une non-persistance de la lactase, souvent associée à une intolérance au lactose. Ce nombre pourrait avoir augmenté depuis. Pourquoi, dans ce cas, imposer un supplément à ceux qui ont des allergies ou des intolérances, ce qui constitue déjà une contrainte? Libre marché ou éthique des affaires? Les sceptiques et défenseurs du libre marché pourrait soutenir que les entreprises ont le droit de fixer leurs prix et qu'il revient aux consommateurs de décider d'accepter ou non ces frais. Cependant, dans un système de libre marché, les entreprises doivent également équilibrer rentabilité et éthique. Imposer des frais supplémentaires pour des produits substituts d'origine végétale, désormais largement acceptés, peut donner l'impression d'un opportunisme ou d'un profit abusif. Une telle pratique pourrait éroder la confiance et la fidélité des consommateurs. Fait intéressant. Starbucks Canada a mis fin à la pratique des frais pour les boissons végétales en novembre 2024 et Tim Hortons a récemment suivi le mouvement. Cette décision coïncide-t-elle avec le dépôt de la demande d'autorisation d'action collective? La réponse reste à déterminer, mais une chose est certaine. Cette question met en lumière l'importance de la transparence et de l'équité dans les pratiques commerciales des grandes chaînes de café. C'était « Le malaise des frais avec le café », un texte de Sylvain Charlebois, paru le 21 janvier 2025 dans La Presse.
L'égalité vue par José Blanchette, un texte de l'équipe de rédaction, paru le 12 décembre 2024 dans la Gazette des femmes. José Blanchette s'est jointe à l'équipe du quotidien Le Devoir à titre de critique gastronomique en 1984. Depuis plus de 30 ans, elle trempe sa plume dans l'air du temps pour sa chronique « Zeitgeist » du vendredi. Elle y aborde les enjeux de société sous un angle personnel qui tend à l'universel. Électron libre, celle qu'on surnomme Jo Blow, a été également chroniqueuse à la radio, à la télé et dans les magazines, animatrice radio et télé, conférencière et auteure. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages, dont un roman, « Mon jeune amant français » 2020, et un récit, « Presque vierge » 2024. José Blanchette fut notamment récompensée du prix Jules Fournier du Conseil de la langue française en 1999 et du prix Judith Jasmin, Opinion, en 2014. Réflexion sur le sens, l'humanisme, le spirituel et le féminisme. On connaît l'importance d'éduquer les filles et les garçons aux relations égalitaires, de leur transmettre des modèles exempts de stéréotypes. La lutte et le remède à la misogynie peuvent-ils aussi passer par le spirituel? Les représentations de la femme dans la plupart des religions sont archétypales et peuvent prêter flanc à davantage de discrimination. La Vierge n'a-t-elle pas accouché de Jésus en étant vierge? Nous portons ce bagage judéo-chrétien au Québec. La mixité culturelle y ajoute parfois une couche de complexité selon les croyances. La papesse n'existe que dans le tarot et les religieuses sont des servantes de Dieu dans la religion catholique. Les femmes n'ont aucun pouvoir dans cet ordre divin. Lorsqu'on parle de spiritualité, nous sommes plutôt dans une quête de sens beaucoup plus vaste et universelle, celle de l'esprit. Pour moi, l'humanisme permet d'y toucher, la philosophie aussi. Le bouddhisme est une philosophie avant tout. Et certains courants spirituels qui prêtent davantage à une réflexion égalitaire. Si nous partons du principe que nous sommes toutes et tous des êtres de lumière, qui s'étend aussi à la philosophie antispéciste et donc à tous les animaux, il est plus facile de se brancher sur l'âme et l'esprit au-delà des genres, des races et des espèces, et donc sur notre conscience commune. Quelle est l'importance du spirituel, de la mémoire et de la transmission dans l'effort collectif vers ce grand objectif d'égalité? Le spirituel englobe le yin et le yang, principes féminin et masculin, une complémentarité parfaite où ni la misogynie ni la misandrie n'ont leur place. La spiritualité nous rappelle toutefois que nous sommes toutes et tous nés d'une femme, sauf exception récente, et permet de célébrer le principe féminin à cet égard. Les sages-femmes incarnent souvent cette sagesse de la célébrante face à l'aspect sacré de la gestation. Le cordon visible et invisible entre une mère et son enfant fait partie de cette tradition. Le culte des ancêtres rejoint les cultures autochtones et célèbre la mémoire transmise par des rituels, des traditions orales et saisonnières. Ne pas oublier les femmes qui nous ont précédées et nous ont mis au monde, dans notre lignée, est une façon de rester spirituellement connecté à un univers plus vaste que notre nombril. Et Dieu sait, pardonnez-moi cette référence, s'il est grand, pas Dieu, le nombril. Féminin sacré, spiritualité de la nature, tarot, figure historique de la sorcière réhabilitée, vers quoi les femmes, et les féministes en particulier, se tournent-elles aujourd'hui, selon vous, pour trouver réponse? Lorsque la violence et la déroute augmentent, les femmes canalisent naturellement et culturellement les émotions qui les entourent et font souvent office de guérisseuses dans les couples, les familles ou les communautés. Certaines manipulent des outils divinatoires, tarots, runes, énergies subtiles, etc. D'autres forment des groupes de sorcières plus ou moins officiels pour canaliser leur pouvoir et protéger ce don. La figure de la sorcière revient en force depuis quelques années. Elle permet aux femmes de se réapproprier l'intuition, l'instinct et la sagesse, une forme de ritualité où la pleine lune n'est pas étrangère au cycle menstruel, où la terre-mère est célébrée et l'expérience des aînés accueillie avec révérence. Sans compter la sororité et la cohérence, absolument cruciales. À ce sujet, la spiritualité autochtone a beaucoup à nous transmettre, que ce soit par les huttes de sudation, les quêtes de vision ou les cérémonies de plantes guérisseuses. Je suis féministe parce que... Réponse courte. Je suis une femme. Réponse longue. Je me suis ralliée au mouvement féministe assez tard, à 40 ans, en devenant maman. Avant cela, je pensais que tout était réglé pour les femmes. La maternité fut une révélation. Celle des injustices qui s'érigent sur ce parcours de combattante, dans une société qui nous demande d'agir comme si nous étions coupés en deux et de camoufler notre vie de famille qui fait obstacle à la productivité. Quant aux sacrifices professionnels, personnels et financiers d'une mère de famille monoparentale, ils sont gravés dans ma chair. Et ils sont malheureusement partagés par la plupart de mes amis vieille ou jeune. Quelle femme ou personnalité féministe vous inspire le plus? L'année 2024 aura été marquée par ma rencontre avec Léa Clermont-Dion, cette petite fille de Jeannette, la jeune génération de féministes, celle qui fait de l'éducation au consentement, qui nous présente son film sur l'accès à l'avortement. Et qui nous exprime sa détermination et sa cordialité, sa peur au ventre. Elle fait œuvre utile. Pour moi, Léa est l'une des figures de proue de cette cause. Ni revancharde, ni hargneuse, mais allumée et consciente des enjeux, déterminée et légère. Coup de cœur absolu pour cette femme inspirante. C'était « L'égalité vue par José Blanchette », un texte de l'équipe de rédaction, paru le 12 décembre 2024 dans la Gazette des femmes.
Blanc, brun, bio, quel est l'œuf le plus vert? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 16 janvier 2025 dans la presse. Est-ce que les œufs bio, c'est vraiment meilleur pour l'environnement? Et qu'en est-il des œufs bruns? Demande Gabrielle, une lectrice. La réponse peut surprendre. Oui, les œufs bio sont meilleurs pour l'environnement, mais ils le seraient encore plus s'ils étaient blancs. Pour mieux comprendre cette réponse, il faut décortiquer les différents paramètres qui peuvent influencer l'empreinte de la production des œufs, et en particulier la façon dont les poules pondeuses sont élevées et nourries. Le type de poulailler. Il existe aujourd'hui toute une panoplie de méthodes d'élevage de poules. Elles peuvent être en liberté ou dans des cages conventionnelles, dans de grandes volières sur plusieurs étages ou encore dans des logements dits « en colonies enrichies », dotés de boîtes de nid, de tapis de grattage et de perchoirs. Lorsqu'un œuf est certifié biologique, la poule doit avoir été élevée dans un environnement où elle a de l'espace et un accès à l'extérieur. Cela peut cependant réduire la productivité de l'élevage, puisque la poule élevée en liberté présente un plus fort taux de mortalité et plus de risques de contracter des maladies. Du point de vue du bien-être animal, Ce sont des aspects importants à considérer. Mais, d'un point de vue environnemental, les conditions de vie de la poule ne pèsent pas lourd dans la balance. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on lui donne à manger. L'alimentation. Une grosse partie de l'empreinte carbone de la production de l'œuf vient de l'alimentation de la poule, avance Maurice Doyon, professeur titulaire au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval. Pour qu'un œuf soit certifié biologique, il faut que la poule qui l'a pondue ait été nourrie de grains issus de l'agriculture biologique, donc cultivée de façon durable, sans utilisation de pesticides de synthèse et d'engrais. En ce sens, l'œuf bio est préférable à l'œuf conventionnel. La question de l'œuf brun. L'œuf bio n'est pas parfait pour autant. Il y a un os, si je puis dire, signale Maurice Doyon. Bien que les œufs blancs et bruns soient similaires d'un point de vue nutritionnel, les poules qui les pondent n'ont pas les mêmes besoins. Les poules brunes ont besoin de plus d'espace et de plus de nourriture pour produire, en fin de compte, moins d'œufs que les poules blanches. C'est pour cette raison que les œufs bruns sont plus chers que les œufs blancs. L'idéal d'un point de vue environnemental serait donc d'avoir des œufs bio blancs. Sauf qu'en trouver sur les tablettes d'épicerie relève de l'exploit. Tous les œufs bio au Canada et au Québec sont bruns. Et ça, c'est un non-sens, soupire Maurice Doyon. Pourquoi n'existe-t-il pas d'œufs bio blancs? Parce que, comme le pain brun, le consommateur pense que l'œuf brun, c'est meilleur, répond Sylvain Lapierre, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, FPOQ. Sauf que l'œuf blanc et l'œuf brun ont exactement la même valeur nutritive. C'est vraiment un mythe qu'on se raconte. Résultat, lorsque les producteurs proposent des œufs blancs bio, ceux-ci sont boudés par les consommateurs. Les producteurs répondent au marché. Si les gens allaient plus vers l'œuf blanc, les producteurs bio suivraient le mouvement, indique Sylvain Lapierre. Verdict. Bien qu'il soit brun, l'œuf biologique l'emporte quand même sur l'œuf conventionnel, quel qu'il soit. C'est la conclusion à laquelle la FPOQ est parvenue dans une étude menée auprès d'une quinzaine de producteurs dont les résultats n'ont pas encore été publiés. Cette étude rassemble des poules conventionnelles élevées dans tous les types de logements et des poules biologiques. On voit que la production d'œufs biologiques a une meilleure empreinte environnementale, même si les poules consomment plus de moulées et produisent moins d'œufs, avance Sylvain Lapierre. Bref, selon ce que notre portefeuille peut nous permettre, le meilleur choix environnemental reste d'acheter des œufs bio ou, à défaut, des œufs blancs, en attendant que soient démocratisés peut-être un jour les œufs blancs bio. C'était « Blanc, brun, bio, quel est l'œuf le plus vert ?» un texte de Chloé Bourquin paru le 16 janvier 2025 dans La Presse.
Hop dans le wok, la recette du succès pour la cuisine asiatique. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 8 janvier 2025 dans Le Devoir. Hop dans le wok, c'est d'abord une histoire d'amour entre Christina Potvin, native de Saguenay, et Quy Tam Vo, originaire du Vietnam et arrivé au Canada avec sa famille à l'âge de 1 an. C'est aussi une histoire de passion commune pour la cuisine asiatique qui permet aujourd'hui à des dizaines de milliers de Québécois d'explorer de nouvelles saveurs dans le confort de leur cuisine. En 2020, Christina Potvin et Quy Tam Vo, amateurs de restos asiatiques, se sont retrouvés fort dépourvus quand les règles sanitaires de la pandémie ont forcé la fermeture des commerces et des établissements de restauration. Qu'à cela ne tienne, le couple décide alors de reproduire les recettes qu'ils aimaient. Ainsi est née Up Dans le Wok, une petite entreprise familiale qui a grandi rapidement. Avec sa chaîne YouTube, son blog, son groupe Facebook, son compte Patreon, ses deux livres de recettes, les produits dérivés et leurs dizaines de milliers de fans, Up Dans le Wok a atteint une vitesse de croisière qui a incité Christina et Quitam à abandonner leurs emplois respectifs pour faire de leur projet leur gagne-pain. Ils ont maintenant deux enfants, Amy, 3 ans, et Jack, bientôt 2 ans, que les fans de Up Dans le Wok connaissent bien. Chaque semaine, le couple met en ligne une nouvelle recette sur sa chaîne YouTube. Dans sa cuisine, Christina explique les étapes à suivre et cuisine le plat choisi de Chine, de Corée, du Vietnam, de Thaïlande ou du Japon. Quitam, lui, est derrière la caméra par choix. Le côté chaleureux, la facilité de parler et le magnétisme, c'est elle qui les a. « J'étais conscient de ça », explique-t-il. Un Vietnamien qui dit que la bouffe vietnamienne, c'est bon, ça passe dans le beurre. Mais une Québécoise qui a goûté les plats, qui dit que c'est bon et qui montre comment les faire, là, le courant passe. « On est bon, mais pas dans les mêmes sphères », renchérit Christina. Lui est davantage dans la gestion et moi dans la création. Redécouvrir la cuisine maison. Cuisiner des mets asiatiques n'a rien de sorcier quand on écoute les explications claires de Christina. Dans sa vidéo où elle présente sa recette de bœuf mongol, elle tient dans ses bras le petit Jack, poupon à l'époque, qui, dit-elle, avait besoin de réconfort. Mais vous allez voir, c'est tellement facile qu'on peut faire ça avec un bébé dans les bras, assure-t-elle à son auditoire virtuel. Le petit Jack n'était plus dans les bras de sa mère quand est venu le temps de cuire la viande, mais la présence de 2 enfants en bas âge dans la maison complique parfois les tournages, admet le couple. La cuisine asiatique ne requiert pas des équipements compliqués, si ce n'est un wok et idéalement une friteuse. Il faut tout de même se procurer les sauces spécialisées, vin de cuisson et autres ingrédients de base. Mais une fois ceux-ci achetés, et ils sont généralement peu coûteux dans les épiceries asiatiques, reproduire les recettes à la maison est relativement simple. Quitam Vo est d'avis qu'avec la hausse du coût de la vie, leur projet incite bon nombre de Québécois à prendre goût à la cuisine maison et découvrir de nouvelles saveurs. Les gens qui font nos plats réalisent qu'on peut cuisiner de bonnes choses et économiser en même temps. Le couple a publié 2 livres. Le premier, Up Dans le Wok, les secrets de la cuisine asiatique à la maison, aux éditions Cardinal en 2022, regroupe 100 de recettes de grands classiques authentiques. En revanche, pour le second, Up Dans le Wok, buffet chinois à la maison, publié à compte d'auteur en 2024, il a opté pour des recettes américanisées inspirées des buffets chinois. On est Québécois. On a tous eu, dans notre jeunesse, cette image de buffet où c'était le fun d'aller. Les buffets chinois, c'est réconfortant, c'est chaleureux. On voulait recréer cette atmosphère festive, relate Quitam. Le macaroni chinois. Si le choix des recettes se fait conjointement, c'est généralement Christina qui conçoit la recette et Quitam qui met la touche finale. Mais certains mets n'allaient pas de soi. Christina a eu fort à faire pour convaincre son conjoint d'inclure le macaroni chinois dans leur répertoire. Il ne voulait pas le faire, admet-elle. Tout ce qui est chinois dans un macaroni chinois, c'est la sauce soya, fait remarquer Quitam. C'est comme dire que si tu mets de la sauce soya, ça devient chinois. En Asie, il n'y a aucun macaroni chinois. Et dans mes souvenirs de resto, le macaroni chinois, ça ne goûtait rien. Mais Christina a fait sa version et ça m'a convaincu complètement. Le macaroni chinois trône d'ailleurs au sommet du palmarès de leur recette, signale Christina. Il a 3 fois plus de vues que n'importe quelle autre recette du blog. Leur premier livre, paru en 2022, a été publié aux éditions Cardinal. Mais pour le second, le couple a choisi de le concevoir de A à Z, des textes et des photos jusqu'à la mise en page. Et il n'est en vente que sur Amazon. On s'est souvent fait dire que ça ne marcherait pas. Mais nous, ça nous donne encore plus de gaz pour le faire, lance Christina. Cette formule leur a donné beaucoup de liberté. On a pu faire notre livre à notre goût, explique Quitom. Il n'y avait personne pour nous dire que telle et telle chose, ça ne se faisait pas. Mais je peux comprendre les difficultés des auteurs qui ont peut-être des idées géniales en tête, mais qui ont beaucoup de barrières pour vendre leurs livres par eux-mêmes, souligne-t-il. La gestion de leur groupe Facebook, qui permet d'accompagner les membres dans leurs explorations culinaires, demande aussi beaucoup de temps, 7 jours sur 7. Mais Quitom ne s'en plaint pas. Il faut garder en tête qu'on travaille à de la maison en pyjama avec la tasse de café à la main. La recette du succès. Professeur émérite à HEC Montréal, Jacques Nantel connaît bien le travail de Hop dans le Wok et il a même cuisiné plusieurs de ses recettes. Le succès du projet ne l'étonne pas. Les succès commerciaux en affaires sont toujours en fonction de 2 choses. La première, c'est la valeur ajoutée, et la deuxième, c'est la constance et la témérité. Très souvent, c'est la deuxième partie qui manque, surtout au Québec, explique-t-il. Hop dans le Wok s'est positionné dans un créneau précis en fonction de la passion des 2 créateurs, dit-il. Il y a plein de gens qui ont des passions pour plein de choses. La grande différence dans leur cas, c'est d'avoir suivi le livre de recettes de la commercialisation, c'est-à-dire de s'être positionné sur le web avec YouTube, entre autres, d'être constant et d'offrir beaucoup de contenu à un moment où encore trop de gens, particulièrement au Québec, ne savent pas comment utiliser ces médias. L'expert croit que Hop dans le Wok devra étendre son marché hors du Québec pour prospérer à long terme. Inévitablement, l'entreprise devra présenter ses vidéos en anglais, avance-t-il. Hop dans le Wok n'est toutefois pas en panne de projet, notamment avec la chaîne YouTube. Il est trop tôt pour en parler, mais ça peut encore grandir beaucoup, avance Quitom. Avec plus de 350 recettes publiées en ligne, le duo aura-t-il bientôt fait le tour de la cuisine asiatique? On en a jusqu'à notre retraite, rétorque-t-il. C'était Hop dans le Wok, la recette du succès pour la cuisine asiatique, un texte de Jeanne Corriveau paru le 8 janvier 2025 dans Le Devoir.